Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h43, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif, aujourd'hui entrepreneur, un peu sucré, hein, dans le miel et les crèmes glacées.
Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour Alba Ventura.
J'ai lu que vous étiez fixé comme objectif de sauver l'agriculture française. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous n'y allez jamais à moitié. Vous vouliez redresser l'industrie, maintenant vous voulez sauver l'agriculture, mais ça va faire plaisir évidemment à nos paysans en plein salon de l'agriculture. Arnaud Montebourg, après le miel, les amandes, vous lancez une marque de glace, la Mémère, de crème glacée. D'abord, la Mémère, pourquoi ?
C'est un souvenir d'enfance personnel. On allait chercher le lait dans mon enfance, dans le Morvan, avec mes grands-parents. Et une des vaches s'appelait la Mémère. Donc j'ai gardé ce souvenir un peu personnel. Mais non, bien sûr, on ne veut pas sauver l'agriculture d'abord. Une partie de l'agriculture qui se porte très bien, on peut contribuer par la modification du partage de la valeur, c'est-à-dire faire remonter finalement la rémunération chez l'agriculteur en créant des marques équitables où les profits ne sont pas en aval mais restent en amont, en s'associant avec l'agriculteur, en créant des emplois chez lui. Et alors, c'est ce qu'on fait dans les glaces par exemple.
Si j'ai bien
compris, les glaces,
là,
c'est l'agriculteur qui transforme son propre lait en glace, crée des emplois dans son entreprise agricole.
Ah, vous allez trop vite, Arnaud.
Et commercialise. Voilà, alors, ça s'appelle une marque équitable.
Il y a vous, l'entrepreneur, il y a un artisan glacier qui est aussi meilleur ouvrier de France, et il y a des éleveurs de vaches laitières. Et c'est dans leur ferme, c'est ça, que vous allez installer des labos qui vont fabriquer les crèmes glacées.
C'est ça, nous avons commencé hier dans l'Ille-et-Vilaine, chez Patricia et Philippe Morin à Montour. Donc c'est très modeste, c'est une start-up. Hein. Des start-up ne changent pas l'agriculture, mais elles peuvent changer, participer à contribuer au changement de mentalité. C'est-à-dire considérer que l'agriculture peut travailler avec de l'emploi agricole en partageant la rémunération. Par exemple, le lait s'achète, les grandes coopératives, Sodial, Candia, Lactalis, le lait est acheté entre 35 et 40 centimes le litre. Nous l'achetons 80 centimes. Pourquoi ? Parce qu'on considère que l'agriculteur doit être justement rémunéré.
Donc ça
pourquoi ?
Fait
parce qu'il ne l'est pas depuis des décennies. Donc il faut accepter, quand le consommateur consomme, qu'il honore le travail de son paysan.
Ça fait combien de revenus supplémentaires pour l'éleveur concerné ?
C'est assez important. On va le calculer quand on aura réussi à vendre toute la production, parce qu'on va quand même transformer 55 000 litres de lait, c'est-à-dire presque entre 10 et 12% de la production d'une ferme laitière moyenne, en glace. Et nous allons vendre 150 000 pots. Donc nous sommes référencés chez Monoprix. C'est des pots de glace La Mémère, avec les grands parfums que les Français affectionnent. Et c'est une glace 100% bio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de E. Vous savez, on a enlevé les additifs alimentaires.
Elles sont plus chères, ces glaces ?
Pas tant que ça. Elles sont moins chères que le bio qu'on trouve. Elles sont un peu plus chères que les pots industriels de l'industrie de la glace, un peu chimique, il faut le reconnaître. Mais vous avez... excusez-moi, ces glaces sont une tuerie. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que celui qui forme nos éleveurs est David Vesmael, un meilleur ouvrier de France, un maître glacier. Et donc, l'apprentissage se fait dans son laboratoire et nous reproduisons les recettes dans chaque laboratoire, dans chaque ferme. Voilà. C'est finalement une manière de dire on va peut-être se passer d'une partie de l'industrie de la glace, qui d'ailleurs n'est pas made in France, à part Häagen-Dazs, auquel il faut rendre hommage, parce qu'il y a une usine à Arras, mais toutes les autres glaces, Magnum, Carte d'Or, etc., tout ça, c'est hors de France. Donc là, c'est le retour du Made in France en plus.
Arnaud,
donc on est content.
Je vous emmène sur un autre terrain. En 2011, vous aviez publié « Voter pour la démondialisation ». En 2020, avec le coronavirus, on se pose la question de savoir s'il ne faut pas moins dépendre de pays lointains et au bas coût comme la Chine. Alors vous vous dites forcément « Tiens, j'avais raison avant les autres ».
Écoutez, d'abord, c'est toujours agréable d'avoir raison, même 10 ans trop tard, mais parce que c'était il y a 10 ans, je dirais que le monde est en train de rétrécir, pas seulement à cause du coronavirus. D'abord parce que les déséquilibres sont trop forts. Regardez ce qui se passe dans la guerre commerciale entre Monsieur Trump et la Chine. Il est normal que quand vous avez 200 milliards de déficit avec la Chine, on cherche par des moyens politiques de le rééquilibrer. Nous avons 30 milliards de déficit avec la Chine.
Mais
on vend 19 milliards et la Chine nous émouvant, 49 milliards. Donc tous les ans, on fait un chèque. Les Français font un chèque aux Chinois de 30 milliards. Est-ce que cette question, il est normal de ne pas le rééquilibrer ?
Le coronavirus change la donne. Bruno Le Maire, le ministre actuel de l'économie, disait que c'est un game changer, un événement qui change la donne, qui doit nous pousser à relocaliser un certain nombre d'activités.
Ben, écoutez, pour moi, la politique industrielle, elle n'est pas liée aux circonstances. Donc pour moi, elle est transpartisane, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'une politique du made in France ? C'est garder ce qu'on a, donc éviter de se faire piquer Alstom, Technip et combien d'autres. C'est rapatrier ce qu'on a perdu. Ça, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des virus et des épidémies mondiales pour le faire.
Mais c'est compliqué de fabriquer des médicaments, des voitures.
Rien n'est compliqué.
Sans Taïwan, c'est compliqué.
Rien n'est compliqué, car tout ce qu'on peut faire sur place, on a intérêt à le faire.
Mais
ici.
Quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur
par
place ?
Exemple,
on fait plus un congélateur ni un réfrigérateur chez nous.
On a un écart, par exemple, entre ce qu'on achète et ce qu'on produit, qui est le plus important de tous les pays industriels européens. L'Allemagne, par exemple, a un écart beaucoup plus rétréci. Elle produit beaucoup plus par rapport à ce qu'elle importe. Pareil pour l'Italie. Ce n'est pas seulement nos efforts d'exportation, c'est aussi nos efforts de refuser des importations. Donc les relocalisations, moi c'était un des éléments de la politique du redressement productif, du Made in France, devraient consister dans chaque secteur à essayer de sourcer de plus en plus près. Par exemple, vous avez les grandes entreprises du CAC 40, c'est un atout pour la France. Ces entreprises-là, elles ne sourcent sur la France que dans des proportions insuffisantes. Et combien de fois j'avais dit à tous ces
Donc,
grands patrons,
diversifier.
Prenez votre sourcing, c'est-à-dire vos fournitures, sous-traitance, en France, faites travailler la France. Voilà. Et ça devrait être une grande politique, y compris fiscale. Il y a des choses à faire sur ce sujet-là.
Vous n'êtes pas en train de nous vendre du rêve ?
Bah, écoutez, tous les pays européens...
Non, mais parce que ça veut dire qu'il faut que les Français acceptent
juste
de payer
à votre question.
Plus cher.
Non, pas du tout, c'est pas vrai. D'abord, les usines robotisées, quand elles sont robotisées en Chine ou en France, c'est le même prix. Premièrement. Et beaucoup d'industriels s'en aperçoivent. Aujourd'hui, ils commencent à relocaliser de plus en plus. Et puis, tous les pays européens le font. Et ils ont les mêmes coûts de production. Et par ailleurs, les Français défendent. Aujourd'hui, ils veulent savoir ce qu'ils achètent. Ils demandent de plus en plus. Ils votent avec leur carte bleue. Ils disent, moi, je veux savoir ce que je mange, je m'habille.
Démondialiser, ça veut dire quoi ? Rétablir les droits de douane ? Plus de contrôle ?
Par exemple, oui, c'est ça, oui, exactement. C'est-à-dire, finalement, faire en sorte que l'économie soit un tout petit peu plus respectueuse, finalement, de l'histoire et de la géographie. Monsieur Trump a dû lire un rapport de l'Organisation mondiale du commerce en 2013. Il disait, voilà, si on rétablissait les droits de douane au niveau de 1994, avant qu'on ait fait la mondialisation, parce que la mondialisation a été construite par les dirigeants de la planète, eh bien, finalement, les États-Unis d'Amérique retrouveraient 3 points dans la part de marché mondial, l'Europe, ce serait neutre, et la Chine retrouverait une place un peu moins importante. Donc, il a dû lire ce rapport, qui date de 2013, parce que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et c'est, à mon avis, ce que l'Union européenne aurait intérêt à faire. Participer au rétrécissement du monde, c'est aussi construire un avenir écologique à l'économie mondiale.
Parce que pour l'instant,
il n'y en a pas.
C'est le discours aussi que tient Marine Le Pen.
Mais moi, je me moque des discours des uns et des
autres.
Moi, ce que je... Et d'ailleurs, c'est le discours d'un certain nombre de dirigeants mondiaux. Voilà, et il faut le reconnaître. Donc, le rétrécissement du monde, on en a besoin, d'abord pour nos intérêts nationaux, nos intérêts européens, et puis nos intérêts écologiques. Pourquoi ? Parce que quand vous acceptez qu'il y ait 1 milliard de tonnes de CO2 qui est diffusé exclusivement par le transport de fret maritime et qu'il n'y a pas de taxe carbone là-dessus, ben, vous acceptez finalement que le monde continue à fonctionner tel qu'il était. Et c'est là, par exemple, le transport maritime, le transport de marchandises, qu'il faut accepter de démondialiser. Voilà.
Arnaud Montebourg, Huawei, le plus grand opérateur de télécom chinois, va s'implanter en France. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est-à-dire, d'abord, très bien si Huawei va en France plutôt qu'ailleurs. Je me souviens être allé à Huawei pour leur dire « qu'est-ce que vous faites pour la France ?» Donc je suis très content qu'enfin ils fassent quelque chose. J'aurais dit, avec les emplois que vous êtes en train de détruire sur Alcatel, on a perdu plusieurs milliers d'emplois d'Alcatel, il va falloir que vous répariez la facture. Donc j'aurais dit, c'est au moins 5000 emplois. On dit, oh là là, c'est beaucoup trop. Donc là, c'est 500 emplois, mais enfin en 2015... Je crois, Alcatel avait plusieurs milliers d'emplois qui sont en train de disparaître ou qui ont déjà disparu. Donc, vous voyez, on peut se réjouir, mais quand on fait les comptes sur les télécoms, on est perdant. Mmh. Et on est perdant sur le long terme. Parce qu'on a laissé partir Alcatel, qu'on a perdu, et nos opérateurs télécoms, je me souviens, on leur disait, nous voulons que vous mettiez d'Alcatel. Ils disaient, oui, mais enfin, nous, on va au moins cher. Ben, on va tellement au moins cher qu'on a perdu le contrôle sur les télécommunications.
Mais il ne faudrait pas privilégier des industriels européens pour la licence 5G, notamment, ça, ce n'est pas encore tranché, Nokia, Ericsson, non?
Ben, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, c'était l'esprit dans lequel Nokia avait racheté Alcatel.
C'était dans votre esprit.
Non, mais on a plus intérêt à favoriser en effet nos intérêts européens, mais ce n'est pas le cas, puisqu'on laisse Huawei s'installer partout. Toute l'Afrique a été équipée, y compris par des entreprises françaises ou allemandes, d'équipements Huawei, avec tous les problèmes que ça pose sur le terrain de la sécurité. Et la sécurité, la sûreté même des télécommunications.
Arnaud Montebourg, tout ça, ça vous donne des arguments pour une candidature en 2022 à la présidentielle ?
Ah, écoutez, je ne suis pas dans une candidature. Je suis juste... moi-même, tel que j'ai toujours été. D'ailleurs, vous semblez me le reprocher.
Non, j'ai lu dans le magazine Challenge que vous négociez en ce moment des soutiens avec Jean-Pierre Chevènement et Jean-Louis Borloo. Montebourg, le retour ?
Bah, je n'en reviens pas, d'ailleurs, que... Alors, je vais vous faire un aveu. J'ai déjeuné avec Jean-Pierre Chevènement et j'ai dîné avec Jean-Louis Borloo. Mais
ah bah, suffit, écoutez.
Est-ce que... Oui, enfin, nous n'étions pas seuls, d'abord. Et puis, d'abord, ce sont des gens que j'estime beaucoup. Voilà, pour qui j'ai de l'estime et avec qui j'ai plaisir à refaire le monde.
Non, mais vous pourriez dire que vous êtes en phase avec ce qui se passe aujourd'hui et...
Bah écoutez, je vois que c'est vous pour l'instant qui vous le dites.
Non, pas du
je
tout,
vous félicite,
je vous pose une
d'ailleurs.
Question, c'est tout.
Alors donc, bah écoutez, je n'ai pas d'agenda politique. Voilà, je suis dans des entreprises agricoles et je suis très heureux comme je le suis. Ça me fait plaisir parfois.
Mais vous savez
qu'on
que la politique est
micro.
Un virus aussi. Hein, donc
bah écoutez, on va prendre les médicaments nécessaires hein, dans ce cas-là. Mais vous savez, je vais vous dire, je reste le citoyen que j'ai été, l'homme engagé. Ça me fait plaisir que vous me tendiez un micro pour me demander ce que je pense de la situation. Je vous le dis, bon, ça semble vous surprendre, mais c'est vrai qu'après tout, je vous dis ce que je pense. Voilà, pas plus, ni moins. Voilà.
Merci Arnaud Montebourg, entrepreneur équitable.
Démondialiser, participer au rétrécissement du monde, c'est participer à la meilleure santé de notre économie et au respect de l'environnement, vient de nous dire Arnaud Montebourg. D'ici là, on va s'intéresser aux 150 000 pots de glace mémère.